Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est la dernière matinale de 19h de l'année.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
15 morts en Australie. 15 personnes tuées parce qu'elles étaient juives. Tuées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent aux yeux de ceux qui ont peur. La peur de l'étranger, encore et toujours. Cette peur, on la retrouve partout. Comme dans cette vidéo virale, générée par l'intelligence artificielle annonçant un faux coup d'État en France et qui recense déjà plus de 13 millions de vues. Fake news que le groupe Meta refuse de retirer de Facebook malgré les alertes du président Emmanuel Macron. Ces gens-là se moquent de nous, a-t-il partagé pendant son meeting à Marseille. Et pendant que la peur circule plus vite que la vérité, la société se crispe, la peur de l'étranger encore. Pendant que la colère des agriculteurs gronde, des troupeaux de bovins abattus systématiquement à cause de la dermatose nodulaire, une maladie infectieuse virale sans risque de transmission aux humains, des éleveurs à bout, dépossédés de leur travail, de leur dignité parfois, mais toujours la peur de l'étranger. Pendant que la crise du logement explose dans les grandes villes françaises, comme le montre la récente étude Atlas du logement, le miroir du territoire français, aujourd'hui à Paris, il faudrait gagner plus de 7000 euros par mois pour louer un T3. Donc des loyers inaccessibles, des familles qui s'entassent, d'autres qui dorment dehors, et là encore, le coupable, c'est l'autre. Pendant que nos agriculteurs peinent à se nourrir et donc à nous nourrir, pendant que des citoyens cherchent simplement un toit, pendant que la violence gagne du terrain, une question demeure, que fait-on de cette peur ? Car l'étranger, c'est pas seulement celui qu'on désigne du doigt, c'est aussi l'exil, la rencontre, l'altérité. C'est ce qu'on peut apprendre de l'autre, c'est la possibilité de vivre ensemble plutôt que les uns contre les autres. Aujourd'hui, on a choisi de parler de ça, de l'étranger, de l'accueil, de l'ouverture, de ce que ça veut dire concrètement vivre avec l'autre. Et pour en parler, nous recevons l'association Unir qui agit chaque jour pour transformer la peur en rencontre. Et ce soir, c'est moi, Farah, qui anime cette émission, la der des der de 2025. Franchement, je suis un peu émue. Avec nous ce soir, dans la matinale de 19h, au micro d'Alice, Camila Rios-Armas, directrice et fondatrice de l'association Unir, Université et Réfugiés. Ensuite, Fabien poursuit avec le Flash Info. Ève nous réserve une chronique sur l'actu. On partira ensuite à Chaillot, au Théâtre National de la Danse, découvrir la création Les Oiseaux. Et juste après, c'est dans l'univers de The Stranger Things qu'Ambrine, notre fabuleuse stagiaire, nous emmène. Et c'est Hugo qui clôturera cette dernière émission de l'année avec ses jolis mots.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Rebonsoir, il est 19h04 et vous êtes sur la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il y a 7 ans, au Venezuela, notre invité a cofondé Unir, Université et Réfugiés, pour accompagner dans leurs projets académiques et socio-professionnels toutes les personnes exilées, forcées de quitter leur pays d'origine. Aujourd'hui, Unir a accompagné plus de 4000 personnes. Camila Rios-Armas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Campus Paris.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et c'est au micro d'Alice que nous allons vous écouter. Bonsoir Alice, comment ça va ?
Bonsoir Farah, ça va ? Merci.
Eh bien Alice, c'est à toi.
Bonsoir Camila.
Bonsoir.
Merci encore d'être avec nous. Donc Farah l'a rappelé, vous êtes la cofondatrice de l'association Unir, donc qui aide les personnes réfugiées, et demandeuses d'asile. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet important qui agite beaucoup les politiques de tous les bords confondus. Je précise à tout le monde que si à Radio Campus Paris on a décidé de traiter de ce sujet, c'est que demain a lieu la journée internationale des migrants, donc le 18 décembre. Et justement, pour commencer, avant de parler de l'association, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle permet. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur ce dont on parle concrètement. Ça me semble essentiel que tout le monde comprenne les termes, car il peut y avoir énormément de confusion et qui sont notamment à l'origine de discours erronés ou qui veulent juste faire sensation parfois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences entre un migrant, un réfugié et un demandeur d'asile ? Est-ce que ces termes évoquent les mêmes sociologies de personnes, les mêmes débouchés, etc. etc.
Oui, bien sûr. Donc, à l'heure qu'on parle de migrants, techniquement parlant, les migrants, c'est une personne qui est en résidence dans un pays qui n'est pas le sien, donc où il porte une nationalité. Toute personne qui vit dans un pays qui n'est pas le sien est considérée migrant. Une personne demandeuse d'asile, c'est une personne qui a demandé l'asile, c'est-à-dire a demandé la protection internationale d'un autre pays. C'est-à-dire, c'est une personne qui a des raisons, soit il était persécuté par des questions de guerre liées à son orientation sexuelle, à sa religion, ou même le fait d'être une femme, puis alors demander l'asile dans un autre pays. Et une personne réfugiée, c'est une personne qui, après avoir fait une demande d'asile, elle a effectivement eu la protection. Donc, c'est une personne en France, une personne réfugiée statutaire, comme on les appelle, c'est une personne qui a un titre de séjour de 10 ans. Et après, il y a des autres encore des terres, des autres terminologies. On peut parler de la personne qui est en protection subsidiaire, donc c'est des protections des 4 ans, parce qu'on pense que la situation du pays d'origine est plus changée dans 4 ans, donc on ne donne pas nécessairement les statuts de réfugiés. Et après, on a aussi le terme exilé qui peut englober l'ensemble des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes qui simplement se retrouvent en exil à cause de différentes raisons.
Donc on comprend bien qu'il y a une multitude de cas et de personnes différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail comment et pourquoi votre association donc Unir Université et Réfugiés est née donc en 2018
Oui, donc en 2018, moi j'étais jeune diplômée d'un master à Paris. Depuis 2015, j'ai travaillé auprès des personnes exilées. Et parmi mon travail de bénévolat, j'ai rencontré beaucoup de personnes à Paris et à Calais qui demandaient, posaient des questions par rapport à la reprise d'études des personnes qui étaient déjà diplômées, des personnes qui étaient scolarisées. Je vous avoue qu'au début, ça m'a beaucoup choquée parce que dans les médias et quand on parlait des personnes réfugiées ou exilées, et c'était toujours des termes très péjoratifs. On ne parlait pas des personnes en fait, qui avaient eu des années d'expérience professionnelle ou des études. Donc, je n'avais pas forcément les réponses. Et pour moi, la réponse à cette question, c'était de... Bon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une association qui faisait ça. Donc, on ne pouvait pas orienter les personnes. Donc, on a commencé à faire des actions. Et c'était cette première élan d'essayer d'apporter des réponses en besoin des terrain qui a été l'origine d'Unir.
Après 7 années d'existence, donc j'ai dit, l'association est née en 2018, on est aujourd'hui en 2025. Quel est votre constat sur vous parlez des médias il y a 2 minutes, sur le traitement politique, social, économique des questions migratoires et en parallèle, comment est-ce que vous pourriez décrire le rôle et l'importance de votre association depuis sa création? En d'autres termes, est-ce que votre travail en 2018 était plus important à cette époque-là? Est-ce qu'il n'a fait qu'augmenter au fil des années? Est-ce que finalement aujourd'hui il est tout aussi important? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous... Oui, décrire un peu ça.
Bon, je pense qu'il y a une dissonance, une différence entre ce qu'on voit dans les médias et ce que moi je constate dans les terrains et par rapport aux associations, par rapport aux gens qui on accompagne. Donc, d'un côté, on a effectivement des messages qui sont plus que jamais, en fait, assez péjoratifs, négatifs et misérabilistes par rapport aux personnes réfugiées exilées. C'est pas uniquement en France. Malheureusement, c'est une question qu'on voit mondiale, même dans les suds globales. Ça, cette question de comment le sujet il est traité, je vois qu'il y a une dégradation constante. Mais je ne peux pas dire la même chose dans mon travail de tous les jours ou dans le sens que... Il y a 7 ans, parce que l'association il y a 7 ans, mais ça fait 9 ans que j'ai travaillé sur les sujets des personnes diplômées et reprises d'études. Et j'ai vu la création des programmes à destination des personnes réfugiées au sein des universités. J'ai vu des réunions avec des ministères qui, peut-être d'un côté, ils passent des lois contre les personnes réfugiées, mais en interne, ils reconnaissent les faits, la manière comme ils parlent. Je vois l'inclusion même de la question des personnes réfugiées diplômées ou les reprises d'études. Et il y a 8 ans, c'était inimaginable. Je tenais des réunions, dans les gens, ils me disaient « Mais vous allez accompagner qui, en fait ?» C'est des gens qui ne sont pas scolarisés. Moi, je n'ai pas cette question aujourd'hui. Donc ça fait 8 ans de travail aussi de plaidoyer, donc je pense que dans ce sens-là, il y a des changements, mais malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans un système, dans une situation, une conjoncture très anti-immigration qui rend difficile le travail pour toute personne qui est auprès du public exilé. Et quelque chose auquel je fais très attention, et oui, on accompagne, on peut dire aussi, j'ai eu des propos un peu, mais c'est la crème de la crème, vous accompagnez de toute façon une minorité, oui, mais représente quand même 40% des personnes qui sont sous la protection, ils sont au moins l'équivalent de BAC. Et en tant qu'association, on porte toujours un message qui n'est pas uniquement pour les personnes qui sont scolarisées. Et là, les messages qu'on porte, c'est un message d'inclusion, c'est un message d'ouverture au monde, de solidarité et d'accueil pour toute personne exilée, toute personne migrante.
Combien de personnes ça représente par année le nombre de personnes réfugiées et demandeuses d'asile que vous accompagnez ?
Donc, cette année, on a eu 1200 nouvelles personnes qui sont passées par l'association et on accompagnait de manière personnalisée 600 personnes et on a eu environ 200 personnes qui ont suivi des cours des Français.
Et alors justement, vous parlez des cours de français, vous mettez à disposition plusieurs programmes, accompagnement personnalisé, apprentissage du français, mentorat entre femmes, recherche, plaidoyer, sensibilisation, conseils et savoir-faire. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler, alors vraiment dans les grandes lignes, les contenus de ces programmes et qu'est-ce que ça apporte à ces personnes que vous accompagnez ?
Oui, donc on a un programme d'accompagnement personnalisé à la reprise d'études, donc c'est des rendez-vous individuels dans lesquels on fait un diagnostic de qu'est-ce que la personne elle a fait dans les passés et qu'est-ce que c'est possible à faire. On fait aussi un travail très pédagogique d'expliquer comment fonctionne le système d'éducation en France, l'éducation supérieure et aussi tout ce qui est les marchés du travail. On a tout un programme d'apprentissage du français avec des cours de français qui vont de débutants jusqu'à B2, donc des personnes déjà qui ont une bonne connaissance mais qui souhaitent approfondir leur niveau. On a un programme de mentorat à destination des femmes et c'est un programme non mixité dans lequel on a des bénévoles, des femmes bénévoles qui sont des femmes actives professionnellement au niveau local ou qui sont à la retraite et qui accompagnent pendant 6 mois des femmes réfugiées des demandeuses d'asile. Et on a aussi des sorties culturelles, des activités plus liées à la convivialité, à la rencontre, à la création des liens et tout un volet de recherche dans lesquels on fait une étude avec Deya Ortilane, une doctorante en contrat CIFRE qui essaye de comprendre les déclassements professionnels des personnes réfugiées et tous les dispositifs qui ont été créés pour mieux accueillir, mieux accompagner ces personnes.
Et pourquoi c'était important pour vous de mettre en place un programme uniquement pour les femmes ?
On a eu ces constats très rapidement. Donc, au début de l'association, on avait 5% des femmes. Et on s'est dit il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a quand même 40% des personnes sous la protection sont des femmes et au niveau international 50% des personnes sont des femmes migrantes. Donc on s'est dit il faut mieux comprendre et on a fait une étude et on a eu des retours par rapport aux besoins des femmes et qu'est-ce qui se passe. Et donc il y a des obstacles qui sont liés vraiment à la question, à l'intersectionnalité d'être femme et réfugiée et on s'est dit qu'il fallait montrer, il fallait aller à la rencontre de ces femmes. Donc, on a monté un programme qui crée un environnement, un cadre en sécurité, un cadre de confiance dans lequel les femmes elles peuvent travailler leur projet. Et aujourd'hui, à l'association, on a 50% des participants sont des femmes. Donc, pour moi, c'est un bel exemple de comment je défends fortement les espaces non mixité, mais bien sûr qu'à l'association, on accompagne aussi des hommes. Il y a des espaces où il y a la mixité, mais les espaces de non-mixité permettent de produire des choses qui, autrement, seraient très compliquées ou même impossibles.
Quand on parle de questions migratoires, il y a plusieurs mots qui vont revenir, à la fois l'assimilation, l'intégration, l'insertion. Sur votre site, on voit le mot insertion. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ces différents termes et quels enjeux pour vous ça ressort, les trois termes ?
Oui. Bon, la question des terminologies, nous, on a choisi l'inclusion parce que ça parle aussi de l'ouverture de la société d'accueil. Donc, c'est pas uniquement la personne qui arrive qui doit faire l'effort de s'intégrer à la société. Il y a aussi des efforts qui viennent de la part de la société d'accueil. Le terme intégration, c'est le terme qui est plus utilisé aujourd'hui. Le terme assimilation dans mon travail de tous les jours, vraiment, je l'entends jamais, même pas de la part du ministère des Réunions. Par contre, il faut faut comprendre qu'on est dans un modèle, une politique publique d'intégration qui est assimilation, dans le sens que la dernière étape pour pouvoir avoir un parcours d'intégration en France, c'est acquérir la nationalité. Donc en fait, on n'est vraiment pas complètement intégré jusqu'au moment qu'on devient français. Donc ça, c'est de l'assimilation. Il y a beaucoup de théories des politiques publiques d'intégration. Donc même si on ne dit pas les mots, derrière les lois qui en passent, les actions et la manière comme on parle, c'est de l'assimilation. Donc peut-être élément, on a réussi un peu à les, je sais pas, il était un peu cancel, mais pas nécessairement les actions derrière ces mots.
La découverte des missions d'UNIR, Université et Réfugiés dans l'insertion socio-professionnelle des personnes exilées, c'est avec Camila Rios Armas, au micro d'Alice, et on continue cette conversation juste après une interlude musicale avec Mehouda de Tiakola.
Ah, on va les attendre, pas faire couler le sang. Attendez, faire doucement. On va les attendre sans menacer. Oh, le symptôme recommence, c'est mort. Y'a que Dieu que j'adore, un selfie et je rigole. Je veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Mais sache-le qu'un dernier message, qu'un dernier message peut t'enlever la vie. Je suis dans Paname, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici y'a 10 heures, ça vend la bête d'or. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Oh, oh, oh. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, oh. Besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes. On a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches. On a repris le Glock. Avant d'être une restaurant, avant d'être la mélo, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois, écoute bien, on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois, au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs, j'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, je suis dans Paname, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici y'a 10 heures, ça rend la bête l'état. C'est l'heure des gérants, y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. En vie, on dort la nuit. Parfois, on est dans le mal. Mais y'a que Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets. Y'a pas de retour en arrière. Le passé, c'est le passé.
Elle est née pour elle, ne pas de parler. Son fontaine avait pas oublié la date, l'impôt, la test, fin d'espace. Sur une planète, je te ramène là.
It's not my fault. Autre indice du sort. Ici, y'a 10 ans, ça prend la bête des dents. C'est l'heure des gérants. Y'a des hommes de poing et des fusils d'assaut.
C'était Mehouda de Tiakola sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours avec Camila Rios Armas, cofondatrice d'UNIR, Université et Réfugiée, au micro d'Alice.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Oui, on parlait de l'importance de l'association, de tout ce qu'elle fait au quotidien pour les personnes réfugiées juste avant la pause. Mais tout de même aussi, on évoquait les discours qui allaient à contresens de votre travail d'inclusion. À votre avis, depuis la création de l'association en 2018, un petit peu avant 2015, vous travaillez dessus depuis plus longtemps, qu'est-ce qui l'a le plus entaché ou décrédibilisé? Quel discours vous a le plus impacté?
C'est difficile parce que j'ai vécu en 2018, on a eu à l'époque la nouvelle loi d'immigration, après c'était en 2023, donc en fait chaque année, chaque fois on s'évade pour une nouvelle loi. Je pense que l'amalgame direct entre criminalité et migration elle me choque beaucoup. La manière comment ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, par exemple avec les OQTF, les ordres de quitter le territoire français, et c'est aussi quelque chose qui me choque. Cette idée maintenant que toute personne qui a un OQTF, c'est une personne, c'est une criminelle, qu'on ne sait pas du tout le cas. Et je pense que ce discours, ça me choque beaucoup. Et donc, mais c'est très difficile de répondre parce que je pense que d'un côté, ça va de pire en pire, et de l'autre côté, on développe une espèce de, je ne veux pas dire tolérance, mais on normalise sans se rendre compte. Donc, à un moment donné, des choses qui nous choquaient peut-être il y a 10 ans, aujourd'hui, on les voit même avec de la nostalgie. Donc, c'est vraiment, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est vrai que plus on voit que les discours se durcissent d'un autre côté, et ça choque moins. Donc, et je me résiste à ça, en fait. Je pense que l'indignation, c'est quelque chose qu'on doit garder et pas s'habituer à cette violence dans les discours.
Mais justement, comment vous faites, vous, pour le garder ? Là, ça fait plusieurs années. Comment vous faites pour le... Enfin, vu que c'est votre travail et que vous avez l'habitude d'entendre plein de propos racistes, discriminants, comment ça fonctionne pour garder la motivation, mais en même temps l'indignation sur le long terme ?
Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un travail... positif, comme disait, un travail, un effort qui doit se faire. Je dois être consciente tous les jours de ce fait de c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Et on le dit entre nous. Et oui, mais bon, de toute façon, par rapport à l'autre déclaration, et lui, non, mais c'est pas normal. Ce qu'on voit aux États-Unis, ce n'est pas normal. Des familles qui sont cachées pendant une semaine parce qu'ils ont peur que la police va les prendre, ce n'est pas normal. Donc, c'est aussi ça répéter, même comme une espèce de mantre, cette espèce d'indignation. Après, la question de la motivation. Il y a un côté de l'indignation, mais il y a aussi l'autre côté, c'est à quoi je crois vraiment. Et je crois vraiment à un message d'inclusion, je crois vraiment à la solidarité, je crois vraiment à cette capacité de l'être, d'avoir en face de lui une personne qu'il ne connaît pas et ressentir de l'empathie. Et je crois vraiment à l'amour entre les gens, donc même des pays différents. Donc je pense que c'est aussi de là où sort cette motivation et aussi des personnes qui m'accompagnent. Donc moi, même si je suis directrice, je garde un contact assez proche des personnes qui m'accompagnent et écouter leurs histoires, voir leurs motivations, voir leur joie malgré tous les obstacles qu'ils ont. Moi, ça me donne de la motivation.
Vous évoquiez le fait qu'il y a une banalisation dans les discours alors qu'ils sont toujours aussi haineux. À votre avis, comment est-ce que la société est encore impactée par ces questions migratoires ? C'est-à-dire, on sait que des fois, les discours politiques ils vont infuser dans la société. Parfois, c'est même la société qui va inspirer les politiques. Et en préparant l'interview, j'ai aussi vu sur votre site la fiche d'appel aux dons et la menace de disparition de votre association. Est-ce qu'à votre les gens s'intéressent moins à ces questions pourtant oui. Cruciales.
Oui, totalement. Les personnes, mais aussi les fondations. Donc, déjà, bon, cette année, c'était l'année la plus dure pour l'association en termes financiers. On était vraiment pas loin de se dire est-ce qu'on va avoir en 2026. Donc, bon, à la fin de l'année, on a une très bonne nouvelle et donc on a des perspectives. Mais on voit déjà d'un côté que ces discours dans lesquels la migration, elle est venue de plus en plus politique, donc elle était instrumentalisée. Donc les fondations privées voient trop risqué en fait de soutenir des projets qui vont à l'encontre des réfugiés. Donc les fondations se désengagent et du côté des publics aussi. Donc ça met les associations dans une grande difficulté. Et ça, c'est quelque chose par contre qui me fait vraiment très très peur. Cette idée de dire, bon, alors l'instrumentalisation, les discours qu'on entend, il est en train vraiment d'avoir des conséquences directes dans nos actions et à travers même des engagements financiers.
Oui. Je me demandais justement, il y a pas mal d'associations qui souffrent de cette instabilité financière et comment on arrive à fonctionner quotidiennement en se disant, enfin là pour le coup vous vous demandiez, est-ce qu'il y aura un 2026 ? On est quand même le 17 décembre 2025. Comment vous faites pour continuer à fonctionner quotidiennement ? Parce que là, il y a des gens qui sont là, qui attendent vos activités.
Oui, en vrai, c'est très difficile cette année. Jusqu'à maintenant, déjà l'associatif, il est fragile. Mais jusqu'à maintenant, on avait une capacité de projection parce qu'on avait des financements pluriannuels. On savait déjà qu'il y a toujours un pourcentage à chercher. On n'a jamais eu plus de 6 mois de trésorerie. Et ça, c'est normal. Ça fonctionne comme ça. Mais cette année, elle était vraiment très dure. Et c'est un travail aussi collectif avec l'équipe et d'avoir de la transparence, de se dire on ne sait pas si on va arriver à avoir en 2026. Et c'est là, en tant que dirigeante, on peut dire de l'asso, que c'était dur. On a dû arrêter des contrats, on a dû réduire l'équipe. Donc, en vrai, c'est un travail qui parfois, d'un côté humain, parce qu'en plus, on est tous engagés, on aime ce qu'on fait, et ça peut être vraiment très, très rude. Ouais.
En 2022, peu de temps avant le premier tour de l'élection présidentielle, l'ONG Singa, spécialisée dans l'intégration des réfugiés, a décidé d'organiser un débat avec tous les bords politiques, sauf ceux d'extrême droite. Selon le directeur de l'ONG, David Robert, les candidats d'extrême droite ne font que répandre la haine et la discorde, je le cite. Je voulais savoir quel était votre sentiment, ou plus globalement celui de l'association, sur le fait de parler ou non avec tout le monde, même si certaines personnes sont à l'opposé de vos valeurs que vous défendez au quotidien.
Oui, donc nous, enfin, c'est partie des associations qui organisaient ces débats avec Singa à l'époque, et dont aujourd'hui je suis présidente, donc j'ai une double casquette. Je pense qu'il y a des personnes auxquelles cette conversation, elle n'est pas possible. Je crois vraiment au pouvoir de la conversation, au pouvoir d'échanger des idées. Mais quand on est face à une personne qui, son projet politique, c'est expulser, même moi-même, parce que je ne suis pas française, je pense que c'est un peu difficile de voir une conversation. La décision, je la trouvais très juste. Par contre, je crois aussi au pouvoir de la rencontre. On a eu des personnes qui ne sont pas nécessairement des gauches, qui ont été bénévoles parce qu'il y avait un côté un peu plus de charité, qui, bon, après, on peut déconstruire. On travaille aussi une forme de bénévole, mais qui avait une espèce de solidarité et de respect à l'autre. Là, c'est différent à avoir une personne qui est des phases de son projet. Il est des bases anti-immigration, anti-immigrant, anti-immigré.
Je le disais en début d'interview, demain a lieu la journée internationale des migrants. Sur son site, les Nations Unies expliquent que les migrants, je cite, jouent un rôle essentiel sur les marchés du travail en comblant les déficits de compétences, en stimulant l'innovation et l'esprit d'entreprise et en relevant les défis démographiques dans les sociétés vieillissantes. Alors je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que vous êtes d'accord avec les Nations Unies à ce propos, mais j'aimerais aussi qu'on s'intéresse aux aspects sociaux et culturels. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous... Ça peut paraître logique peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent, mais quelle richesse apportent les personnes migrantes, réfugiées, demandeuses d'asile dans le pays où ils décident de s'établir ?
Oui, donc il y a une question liée à l'innovation. Et ça, c'est démontré en fait qu'il y a des boîtes où il y a des entreprises, où il y a des personnes migrantes, et il y a plus de créativité et plus d'idées nouvelles. En fait, c'est les personnes, la manière, la culture où on grandit, l'éducation, elle va aussi façonner notre façon de voir le monde et d'apporter des solutions. Et donc, cette richesse des différences et des talents, elle est déjà quelque chose sur lequel il y a eu plein d'études. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Donc, il se démontre aussi que les personnes migrantes qui ont déjà vécu beaucoup d'obstacles, ils ont plus de résilience ou vont avoir une capacité à prendre les risques. Et les risques, ils les voient d'une manière différente que les personnes locales. Et il y a aussi une question simplement d'ouverture du monde et de voir que peut-être la manière comme on voit une chose, elle peut être aussi challengée, elle peut être vue différemment. Et je pense que la migration, il apporte ça et beaucoup d'autres choses. Ouais.
Merci Camille Arias Armas, pardon, d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. Et en cette fin d'année, si vous pensez à vos petits cadeaux de Noël, à essayer de faire quelque chose ou pas, je rappelle l'appel aux dons d'Unir. Voilà, si vous voulez, il suffit d'aller sur leur page internet. Je rappelle aussi qu'il y a un risque de disparition sans soutien des citoyennes et des citoyens. Donc, n'hésitez pas. Et on retrouve notre Fabien National pour le Flash Info du jour.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour, Australie. Dimanche soir, Saïd et Navid Akram, un père et son fils, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises sur la foule rassemblée sur la plage de Bondir pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et 42 blessés. Un Français de 27 ans figure parmi les personnes tuées. Angleterre. 5 ans après le Brexit, le gouvernement britannique a trouvé un accord avec Bruxelles pour réintégrer dès 2027 le programme européen d'échange universitaire Erasmus. Selon l'agence Erasmus France, avant son retrait du programme, 35 000 étudiants européens choisissaient chaque année le Royaume-Uni pour poursuivre leurs études à l'étranger, dont 7 000 Français, tandis que 17 000 étudiants britanniques effectuaient leur mobilité en Europe. France. L'explosion mortelle d'un immeuble de 4 étages à Trévoux dans l'Ain, qui a tué 2 enfants en bas âge lundi, a été causée par le suicide au gaz d'une femme dont le corps a été retrouvé dans les décombres. L'enquête a démontré que la femme a mis fin à ses jours en ouvrant le gaz dans son domicile. 13 personnes ont été hospitalisées en urgence relative, 53 autres ont été prises en charge pour des blessures légères ou en cellules psychologiques. France toujours. À la mairie de Chécy en Seine-et-Marne, il n'y a plus de maire ni de conseillers municipaux. Ils ont tous démissionné de leurs fonctions parce qu'ils refusent de marier un couple. Il est algérien, elle est finlandaise. Ils vivent ensemble depuis 1 an à Chécy. En situation irrégulière, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais celle-ci n'est plus valable aujourd'hui. Le maire refuse le mariage parce que l'État n'a pas fait son travail en expulsant à temps l'homme sous OQTF. Et enfin, pour terminer, culture. Vous sentez la douce odeur de chocolat chaud mêlée à celle des sapins? Bienvenue dans la forêt enchantée qui s'est installée place de l'Hôtel de Ville. Jusqu'au 4 janvier, les Parisiens et Parisiennes vont y vivre la magie des fêtes. Illuminations féeriques, sculptures animales et vitrines décorées invitent à une déambulation hors du temps. Avec My Little Paris, on participera même à des jeux avec 3 boules de Noël géantes. Cherche et trouve, jeu des 5 différences et mini Cluedo. La forêt enchantée de l'Hôtel de Ville, c'est au 29 rue de Rivoli à Paris et c'est jusqu'au 4 janvier.
Merci Fabien pour ce Flash Info et tout de suite, on s'écoute Pas le choix de R2.
C'est l'homme, je soutiens pas sur mes emmerdes. J'allais une fois lever, je l'emmène en week-end. J'ai changé l'argent, je fais ma joie lundi. Avec vos entrailles, bébé, c'est l'homme. On m'a pas laissé le choix, t'as même tué ça. Je veux qu'on te revoie, t'as pas laissé le choix. Avec l'argent, elle a guetté le Spotify avant de talk, mais c'est pas grave. J'ai donné du love à des gens qui m'aiment pas dans le fond du fond, mais c'est pas grave. Est-ce que tu m'as fait quelque chose? Et tu m'as passé à autre chose. On s'appelle un peu de rosé. Que j'enchaîne par les arrosés. Bébé, est-ce que tu m'as fait quelque chose? Et tu m'as passé à autre chose. On s'appelle un peu de rosé. Que j'enchaîne par les arrosés. Avec ou sans toi, bébé, c'est la merde. Soutaine pas sur mes emmerdes. Allez, faut lever, j'emmène en week-end. J'ai changé l'argent, tu m'as joué lundi. Avec ou sans toi, bébé, c'est la merde. On m'a pas laissé le choix, t'as même vu ça. Tu veux qu'on te revoie, t'as pas laissé le choix.
C'était Pas le choix de R2 et maintenant on retrouve Eve pour sa chronique. Salut Eve.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir Farah, bonsoir à tous. Je souhaite revenir sur la fusillade qui s'est produite en Australie en début de semaine. Un père et son fils ont tiré sur plusieurs personnes à Bondi Beach, dans la banlieue de Sydney, en plein Hanouka. Les victimes visées étaient essentiellement des familles de confession juive. Cela ne veut pas dire que les personnes présentes à Bondi Beach étaient toutes juives. Mais elles ont toutes subi l'assaut de ce père, Ali Akram, et de son fils, Navid Akram, tous deux originaires d'Inde. Tous deux sont australiens. Le gouvernement israélien a reproché l'État australien de ne pas avoir fait assez pour épargner et protéger ses concitoyens. Aujourd'hui, la police comptabilise effectivement 15 personnes tuées et une quarantaine de blessés. Nous ne connaissons toujours pas les motivations exactes des deux assaillants, si ce n'est qu'ils avaient prêté allégeance à l'État islamique, mais pour le moment, rien n'est confirmé. Il est difficile encore à ce stade de définir un portrait des assaillants. Je souhaite aussi souligner l'acte de bienveillance de celui qui a réussi à désarmer le fils. Il s'appelle Hamad El Hamad, père de deux enfants. Il vit en Australie depuis ses 10 ans. Nous ne savons toujours pas s'il est australien ou résident australien, mais en tout cas, il est syrien. Donc, de par son geste, il est intéressant de rappeler qu'il ne faut pas confondre antisionisme, hostilité contre l'État d'Israël, et antisémitisme, les actes antisémites étant bien plus profonds en Occident ces dernières années. D'ailleurs, quelle est la position du gouvernement australien ? Celle d'Anthony Albanese, Premier ministre australien, reste ambiguë, voire mal perçue par ses pairs, car nous avons très peu d'infos sur la politique de sécurité à l'encontre pour ses citoyens australiens. Cela soulève aussi des problèmes de société qui sont propres à l'Australie, mais par résonance dans le reste de l'Occident. Car cela rappelle aussi les émeutes de Cronulla en 2005, où des Australiens d'origine européenne s'en étaient pris à des Australiens d'origine libanaise. Tout ça pour vous dire en conclusion que le combat des extrémismes est toujours d'actualité. Les deux événements, avec 20 ans de différence, rappellent la xénophobie latente en Occident. On voit ici la montée des extrémismes toujours très nourrie. Je voudrais aussi souligner qu'en cette fin d'année, il est utile de rappeler la mixité et l'entraide entre communautés, peu importe la couleur de peau ou la couleur de religion. Celle-ci est primordiale. L'émigration, comme on a pu l'entendre, reste une force sociale et culturelle.
Merci Ève pour ta chronique. Tout de suite, on s'écoute une création, Les Oiseaux. Donc Les Oiseaux, c'est une création qui a été présentée du 20 au 22 novembre à Chaillot au Théâtre National de la Danse. La chorégraphe Lenio Caclea nous propose une expérience visuelle, contemplative et critique, nous proposant de nous interroger sur notre rapport au vivant et sur ceux qui, capables de jouer, chasser ou d'inspirer le mouvement d'armes de guerre, comme les drones, se trouvent aussi au centre de la destruction de notre planète. Tout de suite, un reportage signé Louis-Pierre Lacouture avec la complicité d'Ambrine Kéroua.
Les oiseaux de jet sont immobiles. Leurs ailes survolent des prairies violettes. Soudain, on entend leurs ailes déployées. C'est l'ardeur du combat. On entend les voix chantantes. Donc, je suis Lenio Caclea, danseuse, chorégraphe et artiste née à Athènes et basée à Paris. Et nous sommes aujourd'hui à Chaillot pour la troisième représentation de ma dernière création, Les Oiseaux, pour cet interprète. Donc, travailler avec un groupe plus important d'interprètes, c'est très enrichissant. Cela permet de développer une idée chorégraphique avec la contribution gestuelle de tous ceux et celles qui font partie de l'équipe. C'est d'ailleurs toujours le cas, c'est pas que le cas des collaborations avec des interprètes, c'est toujours le cas de chaque collaboration avec justement Eric pour la musique, ou Jean-Marc Segalen pour la lumière, ou Clio Bobotti pour le décor. Les Oiseaux est une pièce qui propose une pensée co-critique à travers le prisme de la danse. Ce qui m'a intéressé, c'était de proposer une expérience à la fois visuelle, contemplative et critique sur notre rapport au vivant et les oiseaux, leur capacité de voler, de s'organiser autrement, de chasser, de jouer, le fait que leur disparition soit au centre de la destruction de notre planète m'a semblé comme un sujet cohérent et d'actualité. Enfin, j'ai voulu travailler avec deux matières chorégraphiques. On a travaillé d'abord avec deux partitions rythmiques qui spatialisent, agencent et réagencent le groupe constamment sur scène, avec quatre phrases composées de mouvements de petit allegro qu'on a créés pour le spectacle. Et puis, cela se combine avec des matériaux individuels, plus expressifs, un peu plus incarnés, on peut dire, qui sont développés de manière très étroite avec chaque danseur et chaque danseuse. Et donc, formellement, ce qui m'intéressait, c'était comment combiner ce moment de groupe un peu plus formel, plus compté, rythmiquement aussi, c'est des phrases comptées, avec des matériaux, on va dire, plus libres, plus individualisés.
Deux choses qui se rejoignent dans la musique, c'est j'ai cherché à avoir une musique très populaire, très moderne, mais qui est fabriquée aussi avec des chants d'oiseaux, des bruits d'oiseaux. Grâce à l'Ennio, j'ai pu rencontrer Thierry Aubin, qui est un bioacousticien et qui m'a donné accès à une banque de données d'enregistrement sonore d'oiseaux et qui m'a beaucoup servi indirectement. Et parler avec lui était encore plus inspirant qu'écouter les banques sonores. Donc on entend des chants d'oiseaux tout le temps dans la pièce, même si dans l'extrait sonore que j'ai confié, c'est pas évident de les entendre de prime abord.
L'équipe des oiseaux est une grande équipe et effectivement Lou Forster, historien de l'art, commissaire d'exposition et dramaturge dans les cas des oiseaux, avec lesquels on réfléchit à chaque fois la présence des textes sur scène parce que c'est un élément qui m'intéresse et qui apporte, je pense, une hybridité, un autre niveau de relation au plateau, de compréhension du mouvement ou même des enjeux de chaque pièce. Et dans le cas des oiseaux, Lou a édité un texte de Monique Wittig, une très connue écrivaine française féministe. Il a édité en fait l'introduction du texte qui introduit les guerrières. Avec quelques vers de Les Chimères de Nerval, Gérard de Nerval. Ce qui nous a intéressé dans ce texte-là avec Lou, c'est que Monique Wittig parle des oiseaux comme des êtres hybrides. Enfin, elle parle dans ce livre des êtres hybrides qui sont moitié oiseaux, moitié amazones. Elle apporte donc cette question à la fois de l'hybridité corporelle, mais aussi la question de la guerre, de la lutte, de la bataille. Un monde plus sombre. Ce qui m'intéressait, c'était justement de multiplier les points de vue. Le drone permettait d'avoir un point de vue sur le plateau, les corps de danseurs et de danseuses, d'un point de vue comme ça qui survole en fait le corps. Le fait que le drone soit une machine qui ressemble, qui a été faite à l'instar évidemment des oiseaux, et puis le fait que ça soit un instrument de guerre, très malheureusement d'actualité, m'a semblé comme intéressant pour justement parler, adresser d'autres questions que la simple contemplation de mouvements aériens des oiseaux. Le trapèze a un autre rôle. Certes, cela permet au corps de Dimitri qui le danse d'être plus haut que le sol, mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est le fait qu'on voit un corps humain dans l'effort d'un exercice de s'éloigner du sol, et c'était cet aspect un peu de preuve que je trouvais plus intéressant que juste les différentes figures que la technique du trapèze propose.
C'était Les Oiseaux, un reportage signé Louis-Pierre Lacouture avec la complicité de notre stagiaire Ambrine Kerouat. Et nous restons avec ces stagiaires parce que cette fois-ci, elle vous a réalisé un reportage sur la série Stranger Things et c'est tout de suite.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Ambrine. Je vais vous parler de la série Stranger Things. C'est une série d'horreur divertissante à chaque épisode. Les démons de la série sont super réalistes. Je veux parler de ce sujet, car cette série a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Elle se passe en 1983 et elle est sortie en 2016 sur Netflix. Savez-vous de quoi parle cette série ? Stranger Things raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Will et qui vit dans une petite, petite ville nommée Watkins aux États-Unis. Un jour, Will découvre un monde parallèle qui est aussi appelé le monde à l'envers. Mais ce jeune homme est envoyé chez les démons Gorgons. Ces démons envahissent sa tête et son corps. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il est désormais sur leur emprise, même dans son propre monde. Un jour, sa mère Joyce Byers décide de lui enlever le démon Gorgon avec un moyen qui est très 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 dangereux pour lui. Sauf que Will tombe dans le coma durant plusieurs mois. À votre avis, que va-t-il se passer ? Je ne vous en dis pas plus. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est qu'elle est très réaliste, qu'il y a eu beaucoup d'humour. Et j'aime aussi que la série fasse peur.
C'était la recommandation série d'Ambrine. Et avant de retrouver les mots d'Hugo, on s'écoute Indomptable de Neige.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
C'était Indomptable de Nech. Et ce soir, Hugo nous parle du curieux cadeau de Noël présidentiel.
Oui, c'est Noël. Mais que voudrait Emmanuel Macron pour Noël ? Peut-être un coup d'État. En effet, mesdames et messieurs, oubliez la grippe, oubliez la crise des retraites. Cette année, le plus grand drame français n'est pas une réforme ou un match de foot perdu à cause de Mbappé ou une grève. Non, c'est une vidéo IA qui a fait croire à tout le monde qu'on avait un coup d'État en France. Ah ben putain, c'est la guerre. Imaginez la scène, vous êtes en train de siroter votre café à 3,10€, on est à Paris, et vous ouvrez Facebook et là, une journaliste en direct annonce qu'un colonel mystérieux vient de renverser le gouvernement en France, à Paris, avec drapeau, caméra, cris et presque deux baguettes dans chaque main. Le truc est si réaliste que même un chef d'État étranger s'est inquiété et a envoyé un message à Macron. Cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Je suis très inquiet. Pendant ce temps, Macron, qui devait sûrement être à la buvette de Noël en train d'expliquer au Père Noël pourquoi il faut taxer les rennes, a répondu un truc comme « Non, 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 c'est pas un coup d'État, juste une vidéo IA qui a fait autant de vues que Brigitte quand elle insulte les féministes. » Et oui, c'est le summum de l'absurde. C'est ce que Facebook a refusé de supprimer la vidéo parce que, paraît-il, elle ne violerait pas leurs règles. Et oui, quand Macron est menacé, la priorité, c'est de protéger le scroll infini. Et en vrai, je m'en fous, ça l'a fait un peu paniquer et ça me régale. Donc voilà le résumé. Une IA qui crée une vidéo plus crédible que certains discours politiques, un dirigeant étranger qui panique et Facebook dit ça scrolle, donc on garde. Alors Macron, évidemment, il a pété un boulon sur le groupe Meta qui est un Facebook. Il a embrouillé Zuckerberg avant de faire genre « Non, 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 mais ça va, je l'ai pris à la rigolade. » Putain, certains ont paniqué. Moi, j'étais là. Enfin, un qui s'énerve un peu plus que par la parole et il est parti le sortir du palais de l'Élysée. Je croyais que c'était les féministes, j'aurais adoré. Allez hop, tu traînes avec Carrie Habitant et t'insultes la victime, vous dégagez tous les deux. Quel beau cadeau de Noël. Oubliez mon super jean, sortez Manu, je suis ravi. Il ira faire chier sa famille au repas de Noël, mais il arrêtera de faire chier 69 millions de Français. Sans déconner, pas tout le monde peut faire la guerre, faut arrêter. Moi au max, je peux faire une capirinha pour les soldats au retour du front, mais je ne touche pas aux Russes. La flemme, ils sont tous bourrés à la vodka depuis leurs 8 ans et élevés avec des ours, moi je n'y vais pas. Restez entre vous, prenez la tour Eiffel, on fera un autre truc, mais laissez-moi dormir s'il vous plaît. Phrase Nishtum, ça veut dire joyeux Noël en russe. Merci de m'avoir écouté.
Merci Hugo, merci beaucoup. La matinale de 19h, la der des der, elle se finit ici. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci à notre invité du soir, Camila Rios-Armas. Merci à Alice, Eve, Fabien, Hugo. Merci à Delila, à la Réal. Merci au binôme de choc, Aude et Jeanne, à la coordination de cette émission. Je vous dis joyeux Noël, merveilleuse Hanouka, bonne année et on se retrouve en 2026, le 6 janvier. Tchuss !